Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui sont de passage, bienvenue à ceux qui sont fidèles tous les dimanches, bienvenue à tous, c'est le Seigneur qui nous accueille maintenant. Seigneur, tu es celui que nous voulons rencontrer. Dieu de temps et de nos contretemps, Dieu de nos absences et de nos promesses, Dieu de nos misères et de nos émerveillements, tu es celui que nous attendons, tu es celui que nous cherchons, tu es celui que nous voulons rencontrer. Montre-nous ton visage dans le miroir de ta parole, montre-nous ton accueil dans le sourire de nos frères et de nos sœurs, montre-nous la tendresse dans leurs regards et leur patience. Qu'en quittant ce lieu, après notre rencontre avec toi, nous puissions dire « Nous avons reconnu tes pas dans le désert de notre attente. Nous avons entendu ta voix dans le buisson de nos peurs. Nous avons vu ton sourire à la porte de nos nuits. » Qu'en quittant ce lieu, où tu auras nourri notre faim de toi, nous puissions dire « Seigneur, tu es un Dieu de présence, tu es un Dieu de parole, tu es l'espérance de notre avenir. Je vous invite à vous lever pour invoquer le Seigneur. Amen. » Nous louons le Seigneur. Que ma vie tout entière chante ta louange. Tu es ma vie, tu es la paix sur mes erreurs, la force dans l'épreuve. Tu es la lutte contre la mort, la source de miséricorde. Que ma vie tout entière chante ta louange. Tu es présent déjà dans l'histoire d'Israël et dans la lutte contre toute oppression. Et dans nos vies désorientées, que ma vie tout entière chante ta louange. Entre moi et ce qui m'écraserait, tu mets l'infini de ton amour. Entre moi et toi, comme le père serre son enfant contre lui, tu supprimes la distance. Que ma vie tout entière chante ta louange. À cause de toi, je mesure l'éphémère de ma vie, la fragilité de mes luttes, mais par ton amour, je l'assume. Que ma vie tout entière chante ta louange. Amen. Et je vous invite à prendre dans le psautier le psaume 24, les strophes 1, 2 et 3.
Thank you.
vous asseoir. Nous écoutons maintenant comment Dieu veut être servi. Brise les chaînes injustes, dénoue les liens de tous les jougs, délivre ceux qu'on opprime, mets fin à toute servitude. Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille dans ta maison le malheureux sans asile, couvre celui qui a froid, ne te détourne pas de ton frère. Allez-vous-en sur les places et proclamez que le Seigneur est roi, que le Christ est vivant et qu'il revient bientôt. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Devant la volonté du Seigneur, nous confessons maintenant nos manquements. Seigneur, nous voici devant toi et nous savons que nous sommes indignes d'être appelés tes serviteurs. Nous ne t'avons pas donné notre vie tout entière, nous avons servi d'autres maîtres, notre foi est faible. Nous n'avons pas eu le courage de te confesser devant les hommes. Nous n'avons pas pris au sérieux tes promesses et nous n'avons pas cru que ta parole a le pouvoir de sauver l'homme. Mais Seigneur, nous ne pouvons pas vivre sans toi. Et tandis qu'aujourd'hui nous entendons à nouveau ton appel, nous ne voulons pas endurcir nos cœurs. Permets que nous revenions à toi, pardonne-nous notre cœur partagé, viens au secours de notre incrédulité, afin que nous apprenions à vivre comme tes enfants, à te servir de tout notre cœur, à être tes témoins parmi les hommes. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des mots qui font vivre, ce sont des mots innocents, le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice et le mot liberté, le mot enfant et le mot gentillesse, bonté et certains noms de fleurs et certains noms de fruits. Le mot courage et le mot découvrir, le mot frère, le mot camarade et ami, et certains noms de pays, de villages, et certains noms d'hommes, de femmes, d'amis. Et que le mot pardon nous fasse vivre. C'est le Seigneur qui nous le dit. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Pardonnés et libérés, nous confessons notre foi. Nous croyons en Dieu, le Père, qui a créé le monde entier, qui unira toutes choses en Christ et qui désire que tous les hommes vivent ensemble comme des frères dans une famille. Nous croyons en Dieu, le Fils, qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité triomphalement, réconciliant le monde entier avec Dieu, brisant toute barrière qui sépare les hommes, barrière de religion, de race, de culture, de classe, pour créer une seule humanité unie. Il est le seul Seigneur ayant autorité sur tout ce qui existe. Il appelle chacun, l'individu et la société, l'Église et l'État, à la réconciliation, l'unité, la justice et la liberté. Nous croyons en Dieu, l'Esprit, qui est la promesse du royaume de Dieu qui vient, qui nous donne le pouvoir de proclamer le jugement de Dieu, le pardon des hommes et des nations, qui nous donne d'aimer et de servir tous les hommes, de lutter pour la justice et la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître le règne de Dieu, ici et maintenant. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Notre Dieu, éveille-nous à l'attente. Rappelle-nous que notre petit monde n'est pas tout. Que notre témoignage a toujours besoin de ta parole. Que tu dises aussi cette parole en dehors de nous et de nos églises. Surprends-nous, renouvelle-nous, remets-nous en question et rattache-nous plus fortement à Jésus. C'est en son nom que nous te le demandons au moment où nous écoutons les lectures bibliques. Amen. Ce sont les trois textes du jour que je vous lirai ce matin. Tout d'abord, un psaume que vous connaissez bien, le psaume 8. Seigneur, notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta beauté dépasse la beauté du ciel. Par la bouche des enfants, des tout-petits, tu affirmes ta puissance devant tes ennemis. Ainsi, tu fais taire tes adversaires qui sans cesse luttent contre toi. Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées, et je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? Pourtant, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes pouvoir sur tout ce que tu as fait. Tu as tout mis à ses pieds. Moutons, chèvres, bœufs, tous ensemble, même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, et tout ce qui passe sur les routes des mers. Seigneur, notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Ensuite, dans l'évangile de Jean, à la fin du chapitre 15 et au début du chapitre 16, voici. Je vais vous envoyer de la part du Père celui qui va vous aider. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Quand il viendra, c'est lui qui sera mon témoin. Et vous serez mes témoins parce que vous avez été avec moi depuis le début. Je vous ai dit cela pour que vous ne perdiez pas la foi. On vous chassera des maisons de prière et même le moment arrivera où tous ceux qui vous tueront croiront servir Dieu de cette façon. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous l'ai dit d'avance, ainsi quand ce moment arrivera, vous vous souviendrez que je vous l'ai dit. Et puis, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, les premiers versets. Oui, nous avons été rendus justes en croyant, et maintenant nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons et par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Et nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons, nous le savons. La souffrance rend patient et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Et puis un peu plus loin, toujours dans l'Épître aux Romains, oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 222, les strophes 1, 2 et 3.
Que ton
Seigneur, ouvre maintenant nos oreilles et nous entendrons ta parole malgré le tumulte de nos journées. Ouvre nos yeux et nous verrons ta parole malgré les ténèbres de notre monde. Ouvre notre vie et nous accueillerons ta parole malgré la fragilité de notre foi. Ouvre notre cœur et nous vivrons ta parole malgré l'aridité de nos combats. Et tu ouvriras nos lèvres pour que nous puissions dire ta parole partout où tu voudras qu'elle soit dite. Il flotte parfois comme un parfum de fin du monde sur nos têtes. De toutes parts, nous sommes alertés par les dangers qui montent autour de nous. De toutes parts, nous sommes informés des drames qui se jouent tout près de nous, à nos frontières ou très loin, mais finalement très près par les images ou les quelques heures d'avion qui nous mènerait au cœur même des événements. Nous ne pourrons pas dire à nos enfants, à nos petits-enfants, que nous ne savions pas. Saurons-nous être pour eux de bons ancêtres qui leur auront légué autre chose que des injustices, des dettes et des déchets. Et ici, que l'on ne balaye pas d'un revers de manche ces faits, en taxant de pessimisme ceux qui relaient avec persévérance ces informations qui, certes, nous gênent un peu. Mais je n'ai pas envie ce matin d'énumérer dans une espèce de litanie culpabilisante ce à quoi je fais allusion. Il suffit, comme le demandaient les prophètes d'Israël, d'ouvrir ses oreilles, d'écarquiller les yeux, et la réalité apparaîtra dans toute sa vérité, dans toute son autorité. Alors bien sûr, cette réalité peut provoquer chez nombre d'entre nous une sidération paralysante, un sentiment d'impuissance tenace, une forme de déprime mortifère, désespérée, en face de l'avenir qui nous attend. C'est comme si nous étions en train de perdre ce monde qui est le nôtre, comme si le socle de nos existences, de nos histoires personnelles ou collectives se dérobait sous nos pieds. Certains à ce sujet ont dit d'ailleurs que ce n'était pas tant le monde qui était en train de se perdre, mais le monde commun, celui qui faisait que quel que soit les difficultés à franchir, les obstacles à lever, les conflits à dépasser, nous habitions un monde où rien ne pouvait arriver sans que d'autres avec nous, pour le pire comme pour le meilleur, n'y soient impliqués. Et le paradoxe est immense. À l'heure où nous mesurons avec force l'interdépendance mondialisée de nos actes, chacun de nous vit un peu dans son monde propre, dans un espèce de solipsisme prégnant un individualisme poussé à son paroxysme, dont, entre autres, nos smartphones, producteurs permanents de mondes virtuels, sont un des symptômes les plus marquants. Il suffit d'ailleurs de se déplacer dans nos transports, dits en commun, pour expérimenter à quel point chacun de nous est dans son monde, si bien que le moindre geste de solidarité, de sympathie, heureusement il y en a encore, passe pour un miracle, quand ce n'est pas pour une déviance provoquant l'interrogation, la surprise, l'étonnement. Je parlais de sidération, d'impuissance, on pourrait parler de désespérance, comme si l'avenir d'une vie commune féconde était définitivement occulté. Tous nous ne réagissons d'ailleurs pas de la même manière. Les uns croient encore à la bunkérisation de nos sociétés, indécemment prospères. Les autres se laissent aller à toutes les jouissances sans lendemain, dans un geste indifférent, proche du « après nous le déluge » déjà dénoncé il y a des lustres par des essayistes de renom. D'autres encore s'enlisent dans une triste neurasthénie morbide et suicidaire. Et puis, il en reste quelques-uns, un petit reste, comme toujours, dans ce temps qui reste, dans cette imminence de l'irruption d'un chaos, d'une catastrophe, d'une apocalypse. Il y a, comme déjà les prophètes l'avaient vu, un petit reste qui d'ailleurs ne demande qu'à devenir innombrable, un reste qui, au cœur même de l'absurde et du non-sens, se tient debout, cherche du sens, prend soin de l'autre, des autres, de tous les autres, de ce monde qui pourrait nous demeurer commun. Alors c'est ainsi, et c'est ici, que notre incorrigible tropisme vers le texte biblique nous entraîne. Et ceci n'est pas un détail. À l'heure où, dans une espèce de relativisme généreux, certains vont chercher du sens dans des spiritualités exotiques, se tourner vers le texte biblique est une première marche vers la confiance en un avenir porteur de fruits. Tout simplement parce que ce texte, du début à la fin, parle de l'homme, de la femme, des peuples, de la paix attendue, de la justice réalisée, de la fraternité retrouvée. Et surtout, il parle de Jésus-Christ, cet homme de Palestine, Ecce Homo, a dit Pilate, icône de l'humanité accomplie dans sa plénitude, celle que nous attendons ici et maintenant. Alors ce matin, ici, dans ce petit îlot de monde commun, dans cette communion qui est l'Église, trois textes, je vous l'ai dit, nous sont proposés, qui peut-être vont nous donner quelques signes sur cette piste incertaine qui, dans la forêt de nos errances, s'ouvre devant nous. Tout d'abord, ce psaume que nous évoquons souvent dans nos liturgies, qui est un hymne à la création et qui pose l'homme, y compris dans son enfance, non seulement comme le gardien d'un bien inestimable, mais comme celui qui en donne tout le sens. Et l'auteur a pour sentiment qui le détermine fondamentalement la gratitude, la reconnaissance. L'homme peut être heureux, tout d'abord, de vivre dans le monde. Ce n'est pas rien. Ce psaume, comme beaucoup d'autres attribués à David, signale au passage que la vie n'est pas simple, qu'elle est même dangereuse. David en savait quelque chose d'ailleurs. Mais que par-dessus tout, il faut se réjouir, être dans une espèce de joie imprenable, indélébile, dans cette création qui nous est offerte. Dans notre monde, si souvent désabusé, désespéré, il est bon de se planter fermement dans ce oui inconditionnelle, dans cette reconnaissance, dans cette confiance, ferme et généreuse, en ce don qui se présente à nous. C'est là la fondation de tout ce qui par la suite peut advenir, c'est notre foi première. Et puis, il y a ce texte de l'évangéliste Jean, un texte qui nous rappelle que cette foi n'est pas un long fleuve tranquille, qu'elle n'est pas un confort d'habitude et de certitude. La foi ne se mérite pas, certes, mais elle a un coût même. Tout près de nous, Dietrich Bonhoeffer nous l'a rappelé par ses écrits et par sa vie. Cette terre créée, ce monde offert, ont été abîmés. Se sont abîmés dans l'obstination de l'homme à ne pas accueillir dans la gratitude les bienfaits d'un présent qui était sans tâche. Et dans cette ingratitude qui s'est crue souveraine, la méfiance s'est installée et devenue notre mauvaise conseillère. Aussi, les disciples, ces témoins, ces héritiers survivants de la confiance originelle, ne peuvent que résister à ce qui, aussi bien sous la Rome impériale qui avait exilé Jean, que comme sous le joug de nos empires contemporains, nuit à une vie apaisée, heureuse et digne pour tous. Si la foi est d'abord gratitude, reconnaissance, oui à cette création confiée à notre liberté, elle est fermement, décidément, non à ce qui l'abîme. Elle est un chemin de résistance sans complaisance qui s'oppose à cette trahison de ce qui est la vocation de l'homme en son sein. Il y a de saintes colères nécessaires en face de ce que nous pouvons entendre et voir. Et puis ensuite, il y a ce texte de Paul qu'on pourrait qualifier quasiment d'hymne à la paix. Par-delà ce oui contrarié, par-delà ce non obligé, il y a cette promesse d'une paix, d'une réconciliation, qui de toute façon inaugurera des commencements, des recommencements bienfaisants. Il y a eu, il y aura toujours une terre promise, un horizon d'espérance que rien ni personne ne pourra abolir. Et cette promesse n'est pas un opium destiné à nous faire patienter, mais le geste actuel sans cesse répété d'un surgissement de la vie, la même où elle est la plus bafouée. Comme hier, comme aujourd'hui et encore demain, il y aura toujours des appelés pour être témoins et acteurs de cette paix, de cette réconciliation. Disciples de Jésus-Christ ou pas, membres de l'Église visible, mais aussi invisible, il y aura toujours, et nous pouvons en être, des porteurs de flambeaux de ce combat, douloureux parfois, inconfortables souvent, mais toujours apaisés, pour que parmi nous, autour de nous, la paix profonde qui inonde les cœurs trace son sillon. Si l'on voulait résumer ce que je viens de dire, je dirais qu'en fait, notre existence est donc en tension entre trois dimensions, trois pôles que je qualifierais ainsi. Il y a la gratitude envers ce qui a été reçu, ensuite la colère contre ce que parfois nous en avons fait, et enfin la paix qui sans cesse nous est redonnée lorsque les combats ont été menés. Et ici, autorisez-moi brièvement à parler de la Trinité. Ne sursautez pas et que personne ne se sente provoqué. Je veux en parler d'abord parce qu'aujourd'hui, dans la liturgie de nos frères catholiques romains, c'est la fête de la Sainte Trinité. Mais au-delà du dogme ancien, il y a quelque chose de plus important. Notre Dieu n'est pas le Dieu d'un monothéisme rigide, omnipotent, là-haut, dans un ciel lointain, est peut-être bien source de nombreux totalitarismes. Il est un mystère que nos prédécesseurs, les pères de l'Église, et même les réformateurs, dans la suite de certains conciles anciens, ont adopté et, ce faisant, ont essayé d'expliciter dans des formulations bien obscures, il est vrai, aujourd'hui. Pourtant, il en demeure quelque chose d'essentiel. Quand nous confessons la Trinité, en fait, nous affirmons trois choses, celles-là même que nous venons de dire. Il y a le Père, qui nous a donné la création, pour laquelle nous exprimons notre reconnaissance, qui nous fait dire oui, c'est une bonne chose que de vivre dans ce monde. Et puis, il y a le Fils en colère contre ce qui est arrivé, celui qui chasse les marchands du temple, qui pleure sur Jérusalem, ses injustices et ses trahisons, et qui mène le combat contre tout ce qui a été abîmé. C'est cette colère qui est salutaire. Et puis il y a l'Esprit Saint, qui est cette présence continue de ce oui et de ce non, dont nous sommes désormais les porteurs en vie, en vue des recommencements sans fin, pour que l'humanité réconciliée, paisible, consolée, vive dans la justice et la paix. Le royaume de paix dont nous sommes les héritiers, mais aussi les redevables, nous impose non seulement d'être des hommes et des femmes de célébration et de louange, de paroles et d'annonces, de proclamations, mais aussi de création, recréation incessante de ces espaces et de ces temps où la paix et la justice règnent pour la joie de tous. Alors maintenant, il me reste à dire encore quelques mots. De même que chacun de nous est appelé à traverser son existence selon les circonstances, dans la confrontation avec ces trois regards portés sur le monde, il demeure pour l'Église dans la persévérance et la fidélité à celui qu'elle a choisi pour maître, de porter toujours et encore une bonne nouvelle, fût-elle annoncée dans un monde dont nombreux sont ceux qui annoncent la fin. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde, disait déjà saint Augustin. Et aujourd'hui, alors que les alarmes se multiplient, tournons à nouveau nos regards vers Paul, cet apôtre, dont on peut dire qu'il fut, sinon contestable, du moins contesté, mais qui, dans son humanité, rongé de contradictions, sut dire à ceux-là même qui sombraient dans des délires, affolés par l'imminence d'un avenir trouble, qu'il y avait toujours un chemin de vie, une ligne de crête à parcourir au milieu des abîmes et des précipices menaçants. Et précisément au-delà du texte romain, je pense à ce passage de la première épître aux Corinthiens où Paul met en avant cette formule si souvent reprise dans l'histoire de l'Église qui signifie en une synthèse éclatante qu'il nous faut vivre maintenant comme s'il n'en était rien, oserais-je interpréter. Ces Corinthiens, déboussolés entre l'attente d'un royaume qui tarde, la vue d'une société de moins en moins régulée, ne savaient plus où donner de la tête et savaient encore moins quoi annoncer, quoi proclamer et comment agir. Et Paul tente de leur redonner confiance, et pour lui, cette confiance s'enracine dans ce que plus tard on appellera les trois notes qui caractérise la vie de l'Église. Trois notes qui sont le miroir de ce que nous venons d'évoquer, trois notes qui sont la partition de ce qu'il nous faut vivre, quelles que soient les circonstances, comme si de rien n'était, disais-je. La première note, c'est la nécessité de la célébration, la nécessité de ce rite commun que sont nos rassemblements liturgiques. Par cette réunion, nous attestons que nous avons un monde commun à partager, qu'il est bon et beau et qu'il faut, comme avec le psalmiste, en être reconnaissant. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas qu'une affaire intime, c'est un geste communautaire dans lequel il faut persévérer, d'autant plus qu'il ne s'agit plus simplement de célébrer la création, mais en plus il s'agit de célébrer la vie, la mort, la résurrection de celui qui lui a donné son sens ultime. Et de plus, deuxième note, il s'agit, en sortant de nos murs, de prononcer devant tous publiquement cette parole salvatrice, fût-elle teintée de colère, qui, quelles que soient les lucidités dérangeantes du moment ou les mensonges qui lui résistent, atteste qu'une espérance demeure, une espérance qui redresse les sentiers tordus, qui aplanit les montagnes infranchissables. C'est un peu comme si, après la mise en scène de cette attente que nous célébrons entre nous, nous procédions à une mise en parole pour que d'autres, beaucoup d'autres, puissent l'écouter, l'entendre et en être au bénéfice. Mais après cette mise en scène et cette mise en parole, il importe, c'est la troisième note, que la mise en œuvre soit effective. L'Église ne peut se contenter de sa liturgie au risque d'en faire une routine stérile. L'Église ne peut se contenter de sa parole prophétique au risque d'en faire une incantation irresponsable. L'Église, pour obéir à la plénitude de sa vocation, se doit d'être servante, diaconale, aller sans cesse vers les plus fragiles, les plus vulnérables, les naufragés de ce monde, parfois si injuste, si douloureux et même si criminel. Alors, au lendemain de cette Pentecôte qui nous a établis dans la ferme certitude que l'Esprit ne renonce jamais, que l'Esprit nous habite, qu'il est sur nous, avec nous, nous saurons avec Marie que bientôt les humbles seront comblés de joie, que les orgueilleux et les tyrans seront renversés et que toutes larmes seront essuyées. Alors, célébrons ici cette promesse, témoignons avec zèle sans répit de sa vérité et mettons en œuvre sans tarder des signes visibles pour que tous soient dans la joie imprenable du royaume de paix et de justice qui vient. En célébrant cette promesse, nous libérerons notre parole dans un monde prisonnier de lendemains sans horizon, et de même que Martin Luther King avait rêvé d'un monde autre, il nous est donné à nous maintenant d'imaginer un avenir fraternel, juste et paisible, et d'en poser les signes inconcevables, inattendus pour ceux qui n'ont pas la confiance noué aux entrailles. Ma sœur, mon frère, imagine-le ce monde. Commence-le, recommence-le. Il est déjà venu, il vient sans tarder, il est là, sois-en le levain, le bourgeon et le sarment. Amen. Merci à David pour cette interprétation de Imagine de John Lennon que vous avez reconnue. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 297, les strophes 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez vous asseoir.
Merci Gérard. Bonjour à tous ceux qui sont présents et merci à Jean-Pierre Rive pour cette prédication et que l'on sache trouver dans la paix la juste mesure de s'indigner tout en prêtant attention à tout ce qui vit autour de nous, humain, nature. Et savoir, je pense aussi, s'émerveiller chaque jour qui nous est donné. En ce dimanche, effectivement, David nous régale aussi de sa musique. Et cet après-midi, après le culte, dans la grande sacristie, vous êtes invités à un pique-nique tiré du sac. Et ensuite, nous irons faire une petite visite balade, à la fois sur les ponts, et autour de ce quartier, enfin on ira surtout vers les ponts qui nous parlent du Paris, du Moyen-Âge, du XVIe siècle et voir un peu la mutation de ce quartier. Nous ferons cette promenade en fonction de la force des participants. Lundi 17 juin, le grec biblique pour progressants à 19h30 avec Aurore Mérieux, l'hébreu biblique pour avancer de 19h à 21h avec Christophe Simienski. Ensuite, le mardi 18 juin, dans la série Théophile, il y a un report. La soirée qui était prévue sur la consolation aura lieu que le 24 septembre de 20h à 22h. Donc, reprise le mercredi 19 juin, une soirée des jeunes de l'oratoire de 19h à 22h. Et le thème est un débat sur guerre et paix. Il aura lieu à la rue de l'Oratoire, au 4, à la maison presbytérale. Le samedi 22 juin, il y a la sortie à Château-Thierry et ses environs à 10h. C'est une journée organisée par les Amitiés Huguenotes internationales. A priori, les inscriptions sont closes, mais vous pouvez toujours vous adresser au secrétariat de l'Oratoire ou à Christiane Guttinger si vous voulez y participer. Le dimanche 23 juin, le culte ici est présidé par le pasteur Marcel Manoël et David Cassan sera à l'orgue. Et comme aujourd'hui, il y a une garderie. Nous vous prions de noter aussi, de la part d'Évangile et Liberté, une rencontre au temple des Batignolles de 14h à 16h. C'est une conférence dialogue sur l'écologie, un défi pour l'humanité. Ça rejoint donc la prédication de Jean-Pierre Rive. Cette conférence sera animée par Corinne Lepage et Olivier Abel. Et à 16h, il y aura un concert. Vous êtes priés de vous inscrire auprès du Temple des Batignolles. Temple des Batignolles, en un seul mot, @gmail.com. Et ensuite, nous aurons notre dernière soirée débat de la saison, le mardi 25 juin à 20h. Sera animé par Christine Prieto avec comme thème « Maladie et guérison dans l'Antiquité et dans la Bible ». Je vous remercie de votre attention et maintenant essayons de nous montrer généreux pour la collecte.
Vous le dire ? Est-ce que, pardon, sur la garderie, tu as annoncé une garderie ? Il n'y a pas de garde. Il n'y a pas de garderie. À partir de cette semaine jusqu'à la rentrée, à une date qu'on vous précisera à cause des travaux qui sont entamés dans le temple pour des raisons dans la maison presbytérale pour des raisons de sécurité. Donc une affiche est sur le site, ça sera confirmé. Il n'y a plus de garderie à partir de ce dimanche. Seigneur, merci pour cette offrande qui est signe de notre communion et partage au nom de ton évangile. Je vous invite maintenant à la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à prier les yeux ouverts sur notre monde et les mains ouvertes, elles aussi, pour t'apporter et te remettre ce qui le brise et le détruit. Apprends-nous à discerner le mal pour pouvoir lui résister de toutes nos forces. Apprends-nous à approcher et accompagner ceux et celles qui, blessés par la vie, ont de la peine à avancer. Nous te prions pour les malades, pour ceux qui traversent un deuil, pour ceux qui, exilés ou immigrés, attendent un peu de sécurité. Nous te prions en ce temps pour les jeunes qui attendent tout de la vie, et en particulier ces jeunes qui cherchent du travail et ceux qui passent bientôt des examens. Permets-nous d'être, pour tous ceux qui sont autour de nous, des hommes et des femmes de courage, de partage et de paix. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celles que le Seigneur nous a enseignées. Et nous nous levons pour dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez maintenant l'exhortation et recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Je vous souhaite de vivre autrement que les gens arrivés et qui pensent avoir réussi leur vie. Je vous souhaite de vivre la tête en bas et le cœur en l'air, les pieds dans vos rêves et les yeux pour voir le réel. Je vous souhaite de vivre sans vous laisser acheter. Je vous souhaite de vivre debout et habité. Je vous souhaite de vivre sans titre, sans étiquette, sans distinction. Je vous souhaite de vivre sans que vous ayez rendu quelqu'un victime de vous-même. Je vous souhaite de vivre dans un monde sans exclu, sans rejeter, sans mépriser, sans humilier. Je vous souhaite de vivre dans un monde où chacun aura le droit de devenir votre frère et de se faire votre prochain. Je vous souhaite de vivre libre, dans un monde libre, d'aller et de venir, d'entrer et de sortir, libre de parler librement et de vivre au grand jour. Je vous souhaite de parler non pour être écouté, mais pour être compris. Je vous souhaite de vivre l'inespéré. C'est dire que je vous souhaite non pas de réussir votre vie, mais de la recevoir comme un don, comme un cadeau de Dieu pour la vivre au service de vos frères. Et qu'en tout temps, Dieu notre Père vous bénisse et vous garde. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie de Dieu. Amen.
Les
bon dimanche, bonne semaine, que le Seigneur vous garde tout au long des jours qui viennent. Amen.